CO. Peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Le Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le CAN Football Club. La petite cellule du soccer.
Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du CAN Football Club, le podcast. Bienvenue à l'édition Couscous Piri Piri en ce 15 avril 2018. Votre après-match 100% bleu blanc noir et toujours 100% CAN FC. L'Impact a perdu Newton sur un score de 3-1 au Red Bull Arena. Évidemment, c'est Nilton George qui est avec moi comme d'habitude. Je suis Sofiane Benzaza. Déjà Nilton, bonjour.
Bonjour, est-ce que ça va malgré tout?
Moi, ça va. Ça va très bien. La routine, l'Impact a perdu 3-1 à Red Bull Arena. Donc, on est là pour l'après-match. Et ça va au-delà de l'après-match parce que on ne parle jamais juste du match. On parle de ce qui se passe autour du match, après le match, pendant le match, la semaine prochaine. On fait des prédictions loufoques. C'est vraiment la meilleure émission. Je ne sais pas ce qui se fait ailleurs, mais et c'est là. C'est bon.
C'est toujours drôle quand tu parles en québécois.
Toujours avec un accent pourri. Donc merci beaucoup de nous écouter tous. Si vous écoutez sur différentes applications podcast, vous faites la recherche sur le CAN Football Club Plus. Vous cherchez le logo, le joli logo noir et blanc avec CAN FC en forme de losange. Donc vous êtes dans le bon fil RSS. Donc vous avez les podcasts du CAN FC, Couscous Piri Piri, Le Point Vendano, MLS Africa Plus, les faits saillants MLS du Julien. Donc, bienvenue dans les podcasts du CAN FC. Et merci encore aux Patreons qui continuent de nous supporter via notre campagne de socio-officiellement sur Patreon. 74 patrons jusqu'à maintenant en ce 15 avril 2018. Donc, merci encore. Puis, on va continuer à vous solliciter à tous nos fans parce que on a plus que 75 personnes qui nous écoutent au podcast. On a plus que 104 personnes qui nous like sur Facebook, qui nous suivent sur Twitter, qui interagissent avec nous, qui répondent aux notes que Sydney met en ligne pour évaluer les joueurs et donner une note du match et les joueurs spécifiquement.
C'était pas facile faire une évaluation après ce match-là.
C'était rough. Ouf. Même moi, j'hésite encore. On va essayer d'improviser un peu. Mais j'ai une idée à qui je vais donner, mais je voulais les garder pour le podcast au lieu de les tweeter. Donc voilà, on est 114 patrons en ce moment, mais on nous écoute, on nous lit, on interagit avec nous sur les réseaux sociaux avec plus de monde. Donc on va arriver, je sais pas moi, à 5000 personnes, 10000 patrons. Je ne sais pas quel est le chiffre magique. Mais on va arriver un jour.
J'ai l'espoir. Mais ça, c'est en incluant les Ghost Followers.
Là. Ah oui, surtout les Ghost Followers. Sans eux, on n'aurait pas de, on n'aurait pas d'émission. Donc c'est ça. Donc merci encore. Donc et puis évidemment, on a un gagnant pour les billets du match de la semaine prochaine contre l'AFC. On va pas dire tout de suite qui a gagné parce qu'on veut.
Non.
On veut que vous écoutez. On va pas dire quand est-ce qu'on va le dire. On va le dire dans 5 minutes à la mi-chemin.
Professionnel.
À la
un
fin.
Professionnel.
Je ne sais pas quand. On va le dire, Nilton. Je ne sais pas. Mais on va le dire, mais il faut écouter le podcast en entier ou skipper comme vous voulez, mais on veut la stat que vous avez écoutée. Donc voilà
les. Peut-être que ça va être en plein milieu.
On ne sait jamais.
Ah, peut-être. OK.
Ou peut-être ça va errer comme une passe de Cabrera. On ne sait pas. Il fallait que je le fasse. Donc, l'effet du match. 3 buts pour les Red Bulls, 1 but pour l'Impact de Montréal. Et puis Bradley Wright Phillips ouvre la marque à la 5e minute. Jason Rakas à la 33e marque sur un confront magnifique pour égaliser un partout et c'était comme ça à la mi-temps. Et ensuite, Gamara et Murillo marquent respectivement à la 57e et la 76e. Quelques faits marquants, Rod Fanny qui sort à la 40e pour blessure, il est remplacé par Daniel Lovitz. Donc c'était Raitala, Camacho et Cabrera à la défense centrale pour les 50 prochaines minutes. Louis Bolonguet rentre à la place de Kroliké à la 57e et Jackson Hamel rentre à la place de Vargas à la 66e. Et bon, on va dire les éléments partant quand même du côté de New York, Robles dans les buts, Murillo, Lang, Parker, Lawrence, la défense, Adams et Davis devant la défense, Valo, Gamara et Royer dans le 4-2-3-1, évidemment Wright Phillips à la pointe. Du côté des Impacts, Bush qui commence la formation devant lui, un 5-3-2, Raitala, Camacho, Fanny, Cabrera, Duval, Silva, Piatt et Kroliki, les trois milieux de l'axe, Piatt et Vargas à la pointe. Donc on prend ces combinaisons-là avec les changements que j'ai notés. On avait de l'impact, t'as quand même essayé de chercher des buts dans cette défaite, Mais avant de rentrer dans les techniques, les tactiques, les stratégies, puis les analyses de vos questions, on va commencer par les évaluations du match. Oh, Saputo d'or, Kropotkin et Gérard Darfoy. Nilton, tu commences. Oh. Boom, let's go.
Oh, le trop de Poutine.
Ça va être difficile.
C'est pas facile. Hein,
trop. Bon, voilà, Saputo d'or, juste pour dire, hein, un gars qui a bien joué.
Un gars qui a bien joué. Un gars qui a bien joué serait...
C'est difficile.
Hein, si tu y vas par ligne, là, tu sais, probablement que l'évaluation, c'est Vargas parce qu'il a réussi, le coup franc de l'année chez l'Impact de Montréal. Le meilleur coup franc de tous les temps de chez l'Impact de Montréal, on s'entend. Mais franchement, là, son jeu, il est pas top, hein. Il fait beaucoup.
Oh ouais,
il nuit beaucoup plus à l'équipe qui aide, malgré le coup franc.
Je pense que...
Il y a vraiment personne qui a bien joué. Le Vite s'est bien débrouillé quand il est venu. Il a apporté quelques occasions. Ouais.
Mais ça a Bush,
j'ai eu des chances de se prouver parce qu'il s'est fait bombarder deuxième fois en deux matchs où il se fait bombarder.
Moi, par défaut, c'est Bush. Hein, parce que le seul joueur qui me donne envie sur le terrain, c'est peut-être Silva, mais vraiment, j'ai aucune idée ce qu'il vaut ce gars-là encore. Mais peut-être Silva, si je suis gentil, mais en fait, c'est Evan Bush. Moi, pour moi, c'est Evan Bush. C'est genre, si tu veux un Saputo d'or qui concerne Vargas, dis le coup franc de Vargas, mais pas Vargas.
Exact. Oui, tout à fait. Ouais, c'est une belle nuance parce que Vargas, là, une chance qu'il y a 3 buts. Puis ces 3 buts, c'est un peu de la magie parce que c'est pas un bon joueur. En tout cas, dans la position qu'il occupe, il fait pas le travail.
Ah, mais
c'est triste.
On va dire ça sur beaucoup de joueurs et aussi sur ce que l'Impact fait en ce moment. La saison est encore tôt, entre guillemets. Mais
À partir de combien de matchs qu'on dit que la saison est entamée, là?
Ben, du moment que tu te retrouves à une fiche en dessous de 500, on commence à en parler.
Parce que là, on est rendu quoi, au 6e de la saison, là, à peu près?
Ouais, déjà, ouais.
Pas loin, là. À un moment donné, il va falloir qu'on arrête de se cacher sur le début de saison, là.
C'est vrai, c'est difficile. Les matchs en main vont peut-être aider ou pas. Du côté de Kropotkin, qui tu choisis? Moi, je choisis... bon, vas-y, en premier. Vas-y. Ou je peux y aller?
Mais moi, ça a été vraiment la ligne défensive au grand complet. Elle n'a jamais eu l'air si folle cette saison.
Moi, je suis chiant.
Les trois défenseurs centraux.
Oui.
C'est Fanny, avant de se blesser, il a eu l'air fou. Lui, la différence, c'est que ses erreurs sur le terrain, ben, ça n'a pas donné un but. Cabrera, il a été exposé, disons. Ensuite, Camacho, une chance qu'on l'a vu jouer sur une chaîne YouTube qui prouve qu'il était en Europe. Parce que sinon, on aurait demandé des papiers. Hein, ce gars-là, là, il arrive de la USL, qu'est-ce qu'on dit? Oh, ça paraît, hein? Pas terrible, hein? Il avait l'air pris de court un peu, pas assez rapide, un peu perdu. Ça a été un très mauvais match. Fait que, entre les trois, c'est pas facile à trouver, là.
Mais une règle d'or qui s'applique à tout ce podcast et à tous les podcasts qui existent dans la planète MLS, se passe dans la Red Bull Arena reste dans la Red Bull Arena. Surtout pour l'Impact. L'Impact, dans ce terrain-là, à part dans le match de playoff.
Mais quand même,
on sait déjà qu'à l'avance, t'as l'impression que t'es à -2. Comment les Red Bull jouent chez eux,
c'est un... Mais je m'en fous de ça. Je m'en fous complètement. On a toujours eu une mauvaise équipe en jouant au Red Bull Arena.
Il y a ça aussi.
Je veux dire, qui avait l'air... Moi, personnellement... Qui avait l'air d'avoir joué 3 jours plus tôt en Ligue des Champions. Là. Ceux qui avaient l'air fatigués, là, c'était les gars en bleu. Là. C'était terrible.
Regarde, je ne veux pas rentrer dans l'excuse qu'il faisait 26 degrés, alors qu'en vrai, il faisait moins 5. À la limite, si c'est une excuse, c'est une raison qui explique une partie, la différence physique entre les deux, j'accepte à un certain niveau. C'est 10 ans que je l'accepte. Mais pour revenir dans la discussion, mon trop poutine à moi, c'est Piet. Piet pour deux raisons. De une, parce qu'il peut mieux faire. Et de deux, il était vraiment en dessous de ce qu'il peut faire en général. Et je pense que chaque trop poutine qu'on peut donner à chaque joueur peut être expliqué par le fait que l'Impact est beaucoup moins bon que les Red Bulls. Du moment, moi, je mets mon analyse à travers ce filtre-là. Est-ce que les Red Bulls sont meilleurs que l'Impact, même si l'Impact était en bonne forme avec tous ses joueurs depuis le début? Moi, je dirais que oui, quand même. Et on en parlera plus tard à travers les questions, mais moi, c'est Piet que je donne comme trop poutine. Un peu quand je donne des trop poutines à Piatti, c'est par rapport à mes attentes aux joueurs. Puis, il a un peu pêché de l'absence de Tider, il a pêché un peu de l'équipe qui se faisait inonder. Et puis, voilà.
Oh, il a peut-être essayé de jouer dans un registre qui n'est pas le sien. Là, puis,
Et surtout que les Rabouls mettaient la pression sur tout le monde. Donc, c'est peut-être même Tider aurait du mal. Mais bon, toi, ton trop poutine, tu le donnes à Camacho. Si tu veux.
Ouais, ben, tu sais, oui, parce qu'il m'a déçu, là, tu sais, ça fait deux semaines, donc on attend qu'il soit sur le terrain puis qu'il fasse la différence. Puis, franchement, ben, c'était pas très beau, là.
Ouais. Et du côté du Jean d'Afouin, moi, je le donne à la passe de Cabrera. C'était un moment genre, tu l'avais expliqué il y a quelques minutes, je pense, avant qu'on enregistre, qu'il était peut-être, ça a été caché peut-être. Par l'arbitre, il a pas vu le joueur qui anticipait la passe. La passe restait quand même très molle. Cabrera, je pense qu'il a fait des matchs pires que ça, honnêtement. En général, là, sa passe était vraiment mauvaise, c'était nul. Mais en termes de ce qu'il a fait sur le terrain, je pense qu'il y a des pires matchs qu'on a vus pour Cabrera sous les couleurs de l'Impact. Puis je pense qu'il y a une question sur ça, on va répondre spécifiquement à nos auditeurs. Et ton Gérard Danfoin?
Ben, c'est à moi-même parce que j'étais vraiment prêt à bombarder Vargas avant son but, puis il a fallu que je fasse un délit. J'ai eu la conscience de dire « Oh, il y a un coup franc, je vais attendre avant de faire mon tweet, puis wow ». Mais c'est ça, c'est…
T'as de la classe.
Ouais, ben j'ai déjà fait des erreurs avant
Ah oui, un gérard d'enfant bonus. Pourquoi Piatti a décidé de prendre un coup franc, le premier du match?
Il y a beaucoup d'éléments de surprise avec Piatti cette saison. Ah. Tu sais, il y a son absence, il y a les coups francs, il y a le fait qu'il joue comme attaquant. Tu sais, c'est plein de surprises comme ça qu'on tente. On peut-tu dire que le système 5-3-2, c'en est un Gérard Defoin solide, là? Ça marche pas, là.
Nilton, on va répondre à cette question dans la section questions du public. Bon, ben, ça conclut les évaluations de Sofiane et Nilton de façon très professionnelle. On va lire quelques-unes de nos amis sur Twitter. Romain Lacaze, @LacazeRomain. Sa poteau d'or bouche pour éviter la valise. Toute poutine, toute la défense de l'Impact sauf bouche. Gérard Danfoin, le nombre de passes dans le vide ou à l'adversaire, comme la première passe de Cabrera sur le but. J'en trouve un autre. Monsieur GM Soccer, @GM le Soccer. Sa poteau d'or, Vargas, goal of the week. Trop poutine, Rudy. Horrible ton niveau de jeu. Et Gérard Danfoin, Cabrera, ça sent la fin pour toi. Et en plus, ça rime.
Je pense que non.
Mais
je pense que non.
Un dernier parmi nos auditeurs qui ont décidé de remplir de nos tags, d'utiliser les hashtags sur Twitter. Monsieur Patrick Leblanc, @Pat_Blanc. Patrick Blanc. Sa poteau d'or bouge, je pense qu'il y a juste les avec lesquels il n'a pas fait un arrêt. Tropotine, Silva, le nombre de déchets. Gérard Danfoin, Cabrera, sans sa boussole, Rod Fanny. Donc, on voit un peu chacun sa propre version du match. On blâme ce défenseur, on blâme l'autre. Mais je pense que ça reflète un peu quelques tweets choisis. Donnent un peu une image générale du match où c'était assez bordélique. En deuxième mi-temps notamment, je pense qu'on va revenir sur les deux mi-temps. Et puis, merci beaucoup d'avoir participé sur Twitter. Et aussi, n'oubliez pas, si vous avez aussi rempli le formulaire que Sid met à chaque fois, après chaque match, on pourra compiler vos notes et vos évaluations dessus aussi. Nilton,
ouais.
T'as tweeté quelque chose, les gens ont répondu. Qu'est-ce que les gens ont demandé?
Franchement, les gens sont bons parce que... Après, à chaque fois après le match, je me demande de quoi on va parler parce que c'est le même match qu'on voit. Hein? C'est beaucoup trop souvent le même match qu'on voit. Puis, non, les gens ont des bonnes questions finalement.
Et puis,
on commence?
Est-ce que c'est un record là? Là, on est à 31 de réponses à ton tweet.
Oh, mais à un moment donné.
il y a un petit thread de 7-8 tweets qu'on peut enlever. Disons qu'on est à 23.
Oui, des fois quand on est pris dans une chicane en deux personnes, ouais. Là, puis on fait juste lire, puis hein.
Un petit clin d'œil à Borat et à Marc, belle tête. Et puis, mais même si on enlève ce thread dans lequel ils ont participé, ça donne une vingtaine de tweets, puis plusieurs tweets en plusieurs questions. Donc je pense qu'on peut dire qu'on a 50 questions à répondre.
Oh boy, ok.
Je suis pas bon en maths.
Non, t'es pas bon, mais c'est pas grave, c'est pas ton métier.
Les matchs en Manhattan, n'oublie jamais.
Bon, on en commence avec... Ça sera pas chronologique, là, je vais en prendre au hasard, parce que sinon, on est là jusqu'à demain, puis on peut pas. Hein? On peut pas. On n'a pas 5 shows dans la semaine, nous, on a juste un comme ça le dimanche.
Et c'est le meilleur.
Docteur Gab nous pose 3 questions, mais si j'en prends un comme ça au hasard, qui fait mon affaire, avec l'anémie offensive que nous avons vue hier... Est-ce la fin du 3-5-2 qui est au fait un 5-3-2? Ça, c'est moi qui ai ajouté ça à la fin. Je vais me lancer. Rémi Garde s'est fait prendre un peu, hein, parce que lui, c'était pas son plan initial de jouer comme ça avec ce système-là. Il s'est retrouvé à aimer ce système parce qu'il a gagné contre Toronto, parce qu'il l'a réutilisé après contre Seattle à 10, puis il a même pas voulu, il a même pas osé changer ce système-là parce que, bon, il y avait aucune autre option en avant, mais ce club-là n'est pas bâti pour jouer dans un schéma tactique où on demande à peu près à deux joueurs de créer l'offensive au complet de ce club-là. Hier, c'était pire encore. T'sais, on l'a vu. Là,
Je ne suis pas d'accord, mais je laisse continuer.
Mais l'offensive, tout ce qui est sur les couloirs est complètement disparu dans ce système-là, parce que ce soit Lovitz, que ce soit Raitala, que ce soit Duval, même Petrasso, il en apportait un peu, mais c'était pas terrible. Puis quand il en apportait un peu plus, c'est quand il combinait avec Edwards dans un 4-3-3. Les latéraux n'ont pas la dimension offensive pour réussir. Piatti en doublette avec Vargas, c'est vraiment pas beau. Là, ils vont réussir une ou deux trucs sur 10 occasions. Une des situations où j'ai vu que c'était la catastrophe, ce système-là, puis je dis non, j'en veux plus jamais, là, c'est tout juste avant le deuxième but de New York qui a tué le match. Duval gagne un ballon dans son territoire. Il fait un petit lob à droite pour Piatti. Piatti part. Habituellement, quand il part sur le couloir gauche, il y a un danger. Là, il part sur le couloir droit. Il est incapable de faire quoi que ce soit avec le ballon. Il tente le dribble. Il essaye de passer à Vargas qui ne fait pas d'appel de balle. Finalement, il attend à Vargas, il perd le ballon, contre-attaque rapide, Piet se fait prendre un peu, il se fait aspirer par ce jeu-là parce que lui aussi essaie d'apporter un élément offensif. Il est aspiré. Pourquoi il revient pas à temps? Est-ce que la condition physique ou le manque de concentration? Qu'est-ce qui arrive? Son homme marque un but parce que la contre-attaque est là. Ce système-là, avec ces joueurs-là en place, va nous donner une saison ennuyante au plus possible. On va les fois qu'on va gagner, c'est parce que l'équipe adverse rate tout et nous, on réussit les peu de chances qu'on a.
Je comprends ton point, je suis d'accord en partie, mais ce que je veux ajouter ou donner comme analyse ou comme ajout pour donner ma compréhension de ce système, c'est que, bon, une chose, quand tu mets une défense à 5, c'est que tu veux vraiment jouer sur la largeur du terrain, que ce soit pour défendre, pour attaquer. Maintenant, c'est à toi de choisir comment tu le gères. Si tu fais comme Toronto ou tu fais les deux en même temps, le plus possible, quoique Toronto, c'est beaucoup plus offensif, ou tu bétonnes comme l'Impact. Ils n'ont aucune intention de monter de façon systématique. Parce que Lovitz et Duval essaient de monter l'un Petrasso contre Toronto en deuxième mi-temps. Ça rappelle au Stade Olympique. Mais c'est une question de est-ce que tu le fais systématiquement ou tu le fais par à-coup. Ça, c'est à voir. Mais ce que je trouve plus intéressant, c'est que je pense qu'il y a des problèmes dans des postes clés qui font que, quel que soit le système, je pense que l'Impact sera dans la chenoute. Pour dire, par exemple, Piatti, on sait que c'est pas un attaquant de pointe, mais on sait que c'est un joueur qui doit être plus proche de la surface que le milieu de terrain. Lui, il peut catalyser comme milieu offensif de temps en temps, mais dès que tu le donnes là-bas autour de la surface, il va dribbler sur les 30 derniers mètres, il peut faire une certaine différence. Mais le problème, c'est que les Red Bulls, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce match-là exactement? Les Red Bulls, ils ont joué un match assez complet. Ils ont pu arrimer la contre-attaque parce que ils connaissent leur terrain. Et de deux, le jeu de position parce que c'est une équipe qui aime jouer avec un certain tempo. Et qu'est-ce que les Red Bulls ont fait que l'Impact a du mal à faire cette saison, même si on l'avait en pré-saison? Un pressing constant et insistant. Et ça, ce pressing a donné toute la différence. Et en plus, Nathan, juste, je vais finir sur ça parce que je vais commencer à répondre à d'autres questions si je continue. C'est que, en termes de façon de jouer, si tu vois les courses que les Red Bulls appliquaient derrière le dos de la défense de l'Impact, une défense qui ne jouait pas si bas que ça, parce qu'ils ne pouvaient pas se le permettre, parce qu'ils ne pouvaient pas, et surtout parce que les Red Bulls jouaient très haut. Si tu vois le bloc des Red Bulls en deuxième mi-temps, le défenseur, je pense, c'était, je l'aime bien beaucoup, comment il s'appelle, Lang, voilà, Lang. Lang, et Lang jouait très haut. Donc, il était quasiment en troisième milieu de terrain avec Adams et Davis. Donc, moi, je trouve que les Red Bulls ont été meilleurs que l'Impact de A à Z. Même en première mi-temps, si l'Impact avait un certain momentum qui était intéressant, ils ne perdaient pas le ballon systématiquement. Ça, c'est un truc. Les joueurs des Red Bulls étaient disponibles aux portes du ballon. On le voyait clairement. Et une grande différence que je vois, c'est Bradley Wright-Phillips. quand tu as un attaquant de pointe sur lequel tu peux t'appuyer, il peut faire le pivot, il peut faire des courses, il est physique,
sur
il est rapide.
Les courses,
c'est ça,
sur
il est, tous les courses. Il est rapide, il peut tout faire. Il te prend deux défenseurs à chaque fois. Parce que sur le, sur une des actions, je pense que c'était peut-être le deuxième but. En tout cas, sur les courses multiples que Royer faisait derrière la défense, du côté droit, où il faisait un appel au ballon, un appel, et puis il y avait Camacho et Cabrera qui étaient sur Bradley Phillips sur l'action. Raitalan ne voyait pas Royer courir derrière lui. Parce que lui, il couvrait peut-être une zone spécifique. Mais on voit que le mouvement des Red Bulls, des latéraux qui bougent, qui font des courses, des appels, des faux appels, tout ça, ça fatigue une défense. Et quand l'impact on a eu beaucoup moins de ballons en deuxième mi-temps. La fatigue est arrivée, c'est normal. Quand tu cours pendant 20 minutes, 10 minutes après le ballon, tu te fatigues. Ça, c'est obligé. Et je trouve que, en termes de système de jeu, le 3-5-2, le 4-4-2, le 4-3-3, on n'a rien fait. Je pense. Parce que déjà, ils veulent bloquer l'axe. Trois défenseurs centraux, trois milieux centraux. Puis Silva jouait un sorte de rôle de numéro 10, entre guillemets. Un sorte de relais offensif, un dribbleur un peu. Mais, au niveau des rôles, Vargas, c'est quoi son rôle? Si Vargas fait pas des courses, à quoi il sert? Si Piatti n'est pas capable de se démarquer, et je veux noter, les Red Bulls ont très bien couvert Piatti. Et souvent, les Red Bulls ne se faisaient jamais prendre en compte. Pourquoi? Parce que tout le monde avait un repli défensif systématique. J'ai jamais vu les trois milieux de terrain, disons, avant le 2-1-1, qui étaient pris en compte par l'impact. Très peu de fois. Parce qu'il avait des consignes. On voyait clairement, c'était mécanique. C'est comme si j'appuyais un bouton, puis magiquement, les trois milieux de terrain revenaient pour couvrir, pour aider la défense à chaque attaque de l'impact. Donc je voyais comme si c'était un robotique un peu systématique et je trouve que c'est ça qui a fait que le match a été perdu parce que les Red Bulls avaient un plan de match beaucoup plus clair, ils avaient des armes beaucoup plus intéressantes et excuse-moi Kroliki, Piet, Silva, ça se connaît à peine. Vargas, Piatti, on n'est pas trop sûr de leur chimie. Il y a pas d'attaquant de pointe de niveau de bon niveau. Et tu sais, je suis désolé ton c'est qui le meilleur buteur de l'Impact depuis quelques années? C'est Piatti, et c'est pas un attaquant de pointe. Non. Piatti peut jouer le pivot, peut garder le ballon.
Non, il
a fait de temps en temps durant le match, mais souvent il a perdu le ballon. Mais tu vois la différence en ayant des rôles spécifiques. Et l'Impact a besoin d'un attaquant de pointe pour pouvoir les aider. D'expérience. Un gars qui sait jouer, pas Mancuso. J'espérais que c'était Jackson Lamel. C'est pas encore fini pour lui. Peut-être avec l'Impact, c'est peut-être fini au niveau de, pour être un titulaire, mais dans sa vie professionnelle, il peut encore éclore et devenir un bon attaquant. Mais pour moi, honnêtement, quand je vois Wright Phillips, je dis ok, on parle pas de la même chose. C'est le gars, il arrête pas de détruire la MLS, il arrête pas de. Le gars a 33 ans, j'aurais dit qu'il a 28 ans, il est juste hallucinant. On voit comment il est efficace, très très invisible, très relax, mais il stresse pas. Juste pour dire, en termes de but, là, depuis qu'il est arrivé au Red Bull, sa première année complète, là, 27 buts, 17, 24, 17, et là, il est à 4 buts. T'imagines? Ça, c'est un attaquant de pointe.
Mais, c'est ça qui fait la différence. Ton point du pressing, j'ai eu cette conversation sur Twitter avec Patrick Leduc, puis oui, le pressing, c'était la chose à faire pour le Red Bull, là, parce que Montréal ne propose. Les joueurs sont statiques sur les mêmes lignes.
Exactement.
Les cinq défenseurs restent
Tout
cinq défenseurs, peu importe la phase de jeu.
Tout à fait.
Quand Piet a le ballon, si jamais vous retombez sur le match,
il y a zéro option.
Mettez-vous, il y a zéro option. Et quand il y a un pressing fort comme ça, tu sais, le pressing, c'est pas la solution magique à tous les jeux, là. Sinon, tout le monde ferait le même pressing. Le danger du pressing, quand t'en fais un, c'est que tu peux te faire dribbler rapidement. Est exposé. Mais Piet n'a pas la technique, n'a pas cette capacité de dribble. Et même s'il réussissait, il n'y a toujours rien. À droite, Duval ne montait pas toujours, à gauche non plus. Tu sais, la passe un peu ridicule de Cabrera, là, c'est un peu le but du jeu, là, c'est d'élargir le jeu, c'est d'aller vers les options. Mais les gars n'ont pas d'options. À chaque fois que Montréal gagnait, récupérait un ballon dans sa zone, c'était automatiquement une autre perte parce qu'il se faisait toujours intercepter. Quand tu vises, quand tes deux seules options à l'attaque pour une passe, c'est Vargas ou Piatti qui doit être couvert par deux hommes parce que c'est tellement facile, ça devient, oui, les joueurs ont l'air fous avec leur passe interceptée, mais tu peux pas faire de magie.
Oui.
Si les gars sont couverts et s'ils pensent pas à comme tu as décrit si bien Wright Phillips, les appels de balles dans le dos de la défensive,
tu disais tantôt que Montréal, son bloc, là, Montréal, ce match-là, a joué trop haut. A vraiment joué trop.
Ils n'ont pas pu jouer plus bas, je pense. Ils ne pouvaient pas, parce que New York les matraquait en deuxième mi-temps. S'ils jouaient plus bas, en allemand, ils allaient tout ça sur la ligne avec Bush.
Je pense que c'est une des raisons. Après deux fois se faire prendre dans le dos comme ça, là, il aurait dû comprendre.
Mais il y avait deux fois où j'ai remarqué, une fois qui était flagrant, c'est que je trouvais que personne n'avait décidé d'appeler le hors-jeu. Donc, il avait manqué Fanny qui lidait la défense. Je pense qu'il y avait Cabrera qui a appelé pour un hors-jeu à un moment, pour dire monter, mais ni Camacho ni Retala ont suivi.
Donc, jouer le hors-jeu à 5, là, c'est tough.
Oui, c'est tough. Mais non, c'est vrai. Mais à un moment, il y avait un manque de communication. Mais vraiment, Nilton, regarde, moi, je suis un latéral. Je suis Duval ou Lovitz ou Retala quand il jouait latéral. Pourquoi j'irais monter à chaque fois systématiquement si j'ai zéro support? Pourquoi j'irais? Honnêtement, sur quelle base technique et stratégique est-ce qu'un latéral à l'Impact de Montréal, même si c'est beaucoup mieux que deux ans, va monter?
Mais enlève la notion Impact de Montréal. Si tu joues dans un schéma comme ça, en 3-5-2, là, le but, là, c'est qu'ils soient toujours plus haut. Là. Oui. À la limite, ils sont toujours à la hauteur des milieux.
Oui.
Et en phase offensive, là, ils coupent dans la surface. Là.
Je suis
d'accord.
Combien
de fois que tu as vu latéral gauche ou droit à l'attaque, là? Pratiquement jamais. Là.
Non, zéro. Et ça,
puis les peu de fois qu'ils sont là, mm-hmm. ils vont tellement pas souvent qu'ils reçoivent pas le ballon. Là. Vargas, il y a une fois, là, il y avait, je pense que c'était rendu Lovitz qui était mm-hmm. rendu là. Il y avait une option de Lovitz facile. Et il l'a pas donné. Mm-hmm. Quand à la fin de la première demi, quand Piatti sauve un ballon tout juste sur la ligne, puis mm-hmm. qu'il la redonne à Silva qui rate, tout de suite après, Vargas, bon, il tente le but, là, il est chaud.
Ouais.
Mais à droite, il y a Duval qui est finalement dans la surface, mais ça arrive tellement pas souvent. Tu sais, on voit tellement que c'est pas un réflexe, que c'est pas une façon de jouer naturelle dans ce club-là, mm-hmm. que les joueurs utilisent pas les latéraux dans les phases offensives.
Non, c'est vrai. Puis je pense que c'est encore un problème, le 5-3-2. Le 5-3-2 devrait te donner des latéraux plus offensifs quand t'as la possibilité. Je te rejoins sur Sandilton. Mais si tes gars ne savent pas monter ou l'équipe se met pas dans des conditions pour monter en bloc, que ce soit genre si t'avais un Yongo, il serait beaucoup plus libéré offensivement. Donc lui, il irait quoi qu'il arrive parce qu'il aime ça. Mais si c'est pas quelque chose de systématique et t'es pas capable d'enchaîner 3-4 passes vers l'avant et faire douter l'adversaire avec des déplacements, des appels de balles, tout ça, à un moment, t'es mort, t'es statique. Et ça, c'est... Et encore une fois, les Rabots étaient meilleurs que l'Impact. Là. Il n'y a pas 15 000 façons d'expliquer. Les Rabots sont juste meilleurs. Le collectif des Red Bulls est beaucoup plus avancé que le collectif de l'Impact qui insère encore des nouveaux joueurs. On sait pas encore ce qu'ils vont jouer.
Mais on a perdu du temps, là.
Ben oui. Mais c'est mieux de perdre du temps maintenant que de le faire en juillet. Parce que si tu recrutes Camacho, Silva en juillet, ta saison est finie. Si tu gardes avec l'équipe qu'ils avaient avant de recruter les nouveaux, c'est fini, là. On arrête.
Pour répondre à plusieurs questions, là, à plusieurs personnes qui me posent à peu près la même question, est-ce que c'est fini, ce système-là? Est-ce qu'on peut continuer et espérer des résultats différents avec ces joueurs-là, dans ce système? Sincèrement, on peut espérer?
Tu peux espérer s'ils sont capables de jouer proprement avec. C'est parce que si l'Impact est capable d'avoir le ballon proprement, avoir un Tider, à voir ce que ça vaut un Tider s'il va piéter ensemble, avoir un Piatti qui est vraiment provoque de façon systématique, moi j'y crois. Parce que honnêtement, moi ça me dérange pas. Parce que regarde, c'est rare que l'Impact va jouer à 5 joueurs en ligne, en arrière. Ils ne sont pas tous alignés. Il y a tout un qui est avancé par rapport à l'autre. Mais c'est une couverture défensive. C'est pour se mettre un parapluie d'assurance. Parce qu'on sait, ils ne font pas parce qu'ils ont vu le Barça le faire. Ils le font parce qu'on bloque l'axe, puis ils laissent les côtés. Les latéraux vont défendre, mais les côtés, le danger va venir des côtés. Et si tu ne peux pas battre un bloc défensif aussi compact, tu joues derrière, tu trouves d'autres façons. Et les Red Bulls, comment ils ont joué, c'était une belle leçon de football.
Mais moi, quand je vois ça, là, un système comme ça, c'est ennuyant, puis de deux, maintenant, c'est même plus efficace.
Regarde, si t'étais fan de Toronto, tu trouverais pas le 5-3-2 ennuyant, parce qu'ils le font très bien. Si t'étais fan de Toronto, le 5-3-2 serait pas ennuyant, parce que Toronto le fait très bien. Excuse-moi, c'est une question.
Oui, avec les joueurs en place. Mais là, présentement, je m'emmerde avec ce système-là, puis il est pas efficace.
Moi,
si tu me dis, on veut rester avec ce système-là parce que éventuellement on va avoir un avant-centre, un vrai avant-centre, quelqu'un qui est de métier puis qui sait comment jouer comme un avant-centre. Et en plus, on va aller chercher un milieu offensif qui est capable, avec Tider, de combiner, de temporiser, oui, et d'apporter du danger. Autrement, s'ils n'ont pas ces joueurs-là qui peuvent faire la différence alors, tout seul, on a un problème de nombre. On ne peut pas fonctionner et espérer produire du jeu offensif avec deux et demi peut-être joueurs offensifs sur le terrain. On ne peut pas espérer gagner 3-1.
On ne peut pas.
Impossible.
On ne peut pas.
Dès qu'on se fait prendre, dès qu'on se prend un but, dans ce système-là, il est foutu.
Regarde, on ne peut pas parce que surtout, une des raisons principales, c'est qu'il n'y a pas d'attaquant de pointe de métier. Parce que si l'Impact va dans un 4-3-3 puis ils gagnent, ou un 4-2-3-1 puis ils gagnent, ils vont pas gagner parce qu'ils ont changé de formation. Ils auront gagné parce qu'ils auront changé de mentalité de jeu. Ils auront changé de façon d'exécuter. Parce que l'exécution était dégueulasse hier, au samedi. C'était catastrophique au niveau de l'exécution. Les passes errantes, les appels magiques, les ballons des 40 mètres pour qu'un attaque...
Ouais, mais les gars, ils voient la même chose qu'on voit. Ils sont sur le terrain, ils voient. Oui. Quand t'as le ballon, là... Puis tu vois que tu as deux gars de Red Bull qui viennent là, en pleine vitesse sur toi. Puis là, tu es obligé là, de penser vite, trouver vite, exécuter vite. Et tout ce que tu as, c'est Piatti qui est à l'autre bout du terrain, trop loin pour toi. Tu as Vargas que tu vas lui donner, mais tu sais qu'il va perdre le ballon. Ou tu fais la passe en retrait, puis finalement, ça se retrouve dans les pieds de Bush, qui le rebalance à Vargas, qui perd le ballon, puis on recommence pendant 70 minutes. Ça devient plate pour eux aussi. Là.
Mais c'est ce qui arrive quand Tyler n'est pas là. Tyler, c'est son rôle, de faire le lien. C'est pas un box-to-box Jim Ailey numéro 10. Là. C'est un numéro attaquant, c'est un box-to-box. Tyler aurait descendu à côté de Camacho, il aurait pris le ballon, il aurait demandé le ballon plus haut, il aurait distribué à droite à gauche, il aurait aidé Piet à faire moins de travail offensif, mais le permettre d'être plus efficace dans les passes précises qu'il doit faire vers l'avant. Piet n'est pas obligé de faire 30 passes vers l'avant comme il a fait contre les Red Bulls. C'est un chiffre que j'ai inventé là, mais pour dire qu'il a fait beaucoup de passes vers l'avant, c'était son rôle. Tyler l'aurait aidé. Donc voilà.
Et pour répondre à Luc Vautry, est-ce que Tyder est notre seul joueur qui peut contrôler le tempo du match? C'est un gros oui.
Oui.
Et on l'avait dit déjà l'année passée avec le départ de Bernier, il fallait trouver quelqu'un pour le remplacer parce que c'était le seul qui était capable l'année passée à mettre le pied sur le ballon et un peu, justement, de temporiser le jeu, calmer le tout quand ça allait un peu mal,
et
permettre aux joueurs de proposer quelque chose. Là, hier, qui a fait ça?
Exactement.
C'était malheureusement Piet,
un rôle
qui n'est pas capable de le faire.
Et Silva,
un peu.
Un peu, mais Silva, on le découvrait, il aime dribbler, je pense qu'il aime aller vers l'avant. S'il vous plaît, arrêtez de le faire jouer latéral droit, là, honnêtement, ça ne m'intéresse plus. Mais je ne l'ai pas vu assez jouer pour dire ça de façon nette. Mais pour revenir à ton point sur Bernier, c'est un excellent point Nilton sur Bernier. J'adore ce point-là. Ce qu'ont Bernier et Tyder en commun, c'est que quand ils décident d'une action, tu sais pourquoi ils le font. Quand ils décident de « Ok, je vais aller, je change de côté » parce qu'il y a une raison pour ça. Quand Bernier balance dans la surface, qu'il a vu une course qui se fait. Tu vois ce que je veux dire ? Il a un purpose dans ce qu'ils font. Et c'est ça la différence. Alors que quand on balance des ballons, parce que t'as pas d'option, parce que ton milieu, tu veux juste l'éviter, parce que tu sais que tu peux rien faire avec, parce que les rabots vont juste te massacrer. Mais c'est aussi une question de confiance, une question de capacité physique et surtout une question de stratégie dans le sens des déplacements des joueurs. Parce que les courses sans le ballon, c'est encore plus important. Parce que c'est quoi? Je pense que c'est Bernier qui avait tweeté sur ça. Un joueur, il avait coté Johan Cruyff.
Il touche trois minutes.
Il joue sur un match de 90 minutes. Un joueur touche le ballon pendant 3 minutes. Ce qui est important, c'est ce qu'il fait. Et ce qui est important, c'est ce qu'il fait avec les 87 autres minutes, plus temps additionnel. Donc, je trouve que le 3-5-2, c'est juste le bouc émissaire, comme Malas, comme Kroliki, de tous les problèmes. Il se peut que je me trompe, que ce soit la formation la plus dégueulasse qui puisse exister pour l'Impact.
Non, c'est faux. C'est à la mode. Et pourquoi c'est à la mode dans les grands championnats? Parce que ça apporte une dimension, là.
Ouais.
Ça apporte quelque chose de totalement nouveau en défensive. Il y a de la couverture. Les anciens ailiers offensifs deviennent des latéraux défensifs, donc ils peuvent faire le travail sur le côté.
Ouais.
Le milieu de terrain est dense. La doublette à l'attaque est intéressante, c'est tout. Mais ça, là, c'est le fun en Premier League.
Il manque juste
l'attaquant. C'est vraiment moins le fun en MLS et encore moins le fun quand ton club d'MLS est rendu avec beaucoup de joueurs d'USL à cause des suspensions. Là on a... Ouais. Taider était pas là pour faire le travail. Sur les côtés, c'est
approximatif.
C'est
approximatif. Ouais, c'est pas assez bon.
C'est vraiment insuffisant. Donc, moi, ce que j'espère... Je veux voir des options offensives. Je veux voir des joueurs à l'attaque combinés. Hier, on voit pas ça. Depuis le début de la saison, on le voit pas depuis qu'on est tombé dans un système comme ça.
Mais pour conclure sur ça, Hamilton, même si Murillo est vraiment meilleur que Duval, si Duval jouait avec les Red Bulls hier, il aurait fait aussi des belles courses.
Probablement.
C'est juste pour dire, dans un 4-2-3-1, avec les rebousses, Duval aurait l'air bon. Parce que c'est le collectif qui était meilleur. Ça se comprenait. Je dis pas que Duval va jouer avec Man City, avec Guardiola, là. Je parle avec les rebousses de
Non, non, mais mon point, c'est une fois qu'on a le ballon, souvent on gagne le ballon creux dans notre territoire, c'est compliqué de le sortir proprement.
Ouais.
Et les fois qu'on est en haut, sur le terrain, ça reste que presque toujours, c'est deux joueurs de l'Impact contre quatre, cinq joueurs de l'équipe adverse.
Il y a beaucoup.
Puis c'est impossible.
Puis il y a un problème
Piatti est capable de faire, il est capable de dribbler et tout d'un coup se trouver dans une situation de but. Mais l'Impact qui construit un but, on le voit pas. Et je suis tanné de voir ça de mon club. Je suis tanné de dire à la fin du match, oh wow, tu sais, on a quand même gagné ce match-là.
Ouais.
Pas, oh wow, on l'a dominé ce match-là, on méritait. Non, c'est juste... Nos deux victoires, on les a pas vraiment méritées offensivement.
Non. Toronto, c'était pas mauvais, mais ça aurait pu être un partout, personne n'aurait rechigné. Ou même 2-1 pour Toronto vers la fin. Mais regarde, c'est les résultats qui comptent à la fin au niveau du classement. Mais regarde,
ça donne bien le résultat et pas là.
Exactement. On aura ce débat plusieurs fois. Honnêtement, c'est le match de 1 à 5, j'ai toujours pas de conclusion à faire sur certains joueurs, sur certaines formations, parce que là, on a enfin tout le monde ensemble. C'est le premier match où tout le monde est là ensemble, sauf Taider. Donc, faut qu'on attende un match. Donc, je veux voir tout le monde ensemble. Je veux voir Taider, je veux voir Piet, je veux voir Silva, je veux voir Camacho. Peut-être même si Fanny est absent, c'est pas grave. Mais il manque pas un joueur important dans le sens au niveau de son poste, parce qu'il y a tout le temps un gars pour remplacer Fanny, même si c'est beaucoup moins bon. Il faut juste qu'on attend encore l'attaquant magique. Peut-être c'est Mancuso qui va revenir.
Bon, ben justement, une question de Vincent IMFC nous demande. Fernando Torres devient-il notre meilleure option? En plus, c'est une vedette.
Ben oui. Ça. Torres, s'il est en forme, à 60% de forme physique, c'est meilleur que tout ce que l'Impact a en ce moment. Il faut pas exagérer.
Oui, mais est-ce que c'est la meilleure option pour Montréal?
Non, la meilleure option, c'est un Argentin de 27 ans qui a marqué 15 buts pendant 3 ans et qui est prêt à venir ici. C'est ça, c'est un buteur en série, c'est un tueur, un gars qui...
Tu sais, les gars de 30 ans là, qui viennent en MLS, c'est le fun, là, les gros noms, ça se blesse, hein, des gars de 30 ans. Hein. Ouais. C'est pas une surprise. Après, on va être surpris qu'un mois après, ben il se tient la jambe parce qu'il y a un muscle qui fait mal.
Oui, mais il faut une machine physique et un gars qui sait marquer des buts.
Il y en a beaucoup, hein, des vrais buteurs, pas juste en Argentine.
Oui, partout.
Qui coûterait pas cher, qui n'est pas de DP. Il pourrait devenir une vedette parce qu'avant ça, on ne le connaissait pas comme Piatti.
Est-ce qu'on voudrait le Divayo à 28 ans en train de faire des appels parfaits puis en train de le détruire? Oui, mais paye pour chercher ce joueur-là. Mais il te faut un buteur. Il faut qu'un joueur que tu vois, tu dis lui, c'est un buteur. Mancuso était un buteur. En ce moment, je ne sais pas ce qu'il est. Yaxchen Lamel peut être un buteur, mais je ne pense pas qu'il aura un sens comme titulaire à l'Impact. À moins que entre maintenant et juillet, c'est entre Mancuso et lui. L'état de Vargas va reculer ou devenir ailier. On verra. Mais en ce moment, l'Impact a un buteur qui s'appelle Piatti, mais n'a pas d'attaquant. Et ça commence à devenir grave.
C'est du gaspillage. Avoir un Piatti dans ton équipe, puis l'isoler comme ça là, de le reste de l'équipe, là, c'est tant qu'à faire, ne paye pas pour Piatti parce que ça ne sert à rien.
Et ce que je trouve comme gaspillage, c'est que Divayo était gaspillé. Si Divayo était un peu plus jeune, il aurait été parfait maintenant. Quand il était là en MLS en 2012-2013, c'était bien. Et je suis like, ah, il est venu trop tôt. Merde. Parce que c'était pourri. Parce que si tu vois les top buteurs en MLS, t'as peut-être Gutierrez de Kansas City qui est deuxième avec 5 buts. Ezequiel Martinez. T'as Maximiliano Morales de New York City qui a 4 buts. mais à la part, c'est tous des attaquants. Là, il y a Almiron, ok, t'as Valeri, t'as Fagundes dans le top du en 20 ou 30 de la ligue, mais c'est tous des attaquants de pointe à part ça. Là, Martinez, Rossi, Wright Phillips, Vela, New York City, t'as Juric, Radi, Badji, Dan Dwyer, Nikolić, Zardes, on sont tous, on parle, je parle d'attaquants qui ont marqué 4 ou 5 buts, là. Des attaquants, des forwards, là, F, pas M, pas OM, pas CMF, F. Et il faut que les, faut comprendre ça un peu, là, parce que c'est, Vargas, je suis content qu'il ait marqué 3 buts, c'est ça? Il a marqué 3 buts, Vargas, je suis super content. Ouais. Mais moi, je veux le voir 3ème avec 3 buts. Et je veux un autre joueur qui a genre, 5 buts et je vois un F à côté.
Je sais toujours pas c'est où la position de Vargas. Hein.
Regarde, je pense que c'est un ailier qui peut jouer deuxième attaquant. Mais après ça.
Ouais, mais deuxième attaquant, pas derrière un vrai attaquant, pas derrière.
Oui. Hein, derrière un vrai attaquant de pointe, un F pour forward.
Mais Torres, Montréal n'a pas des ressources financières illimitées, là, on s'entend là.
Puis Torres
est à risque. Si Torres coûte 2 millions de dollars, c'est un investissement un peu trop cher pour Montréal.
Oui, oui, c'est un peu trop cher, puis c'est un risque par rapport à son âge, mais ouais. moi je dis trop un buteur, mec. Trop un buteur qui va durer 2-3 ans. Espère que tu vas tomber sur un Brady Wright Phillips, qui est là depuis 2014, je pense.
Mais pour ça, il faut connaître hein, le réseau.
Non, mais s'ils ont pu dénicher Alessandro Silva, qui a quoi, qui a 28 ans, 29 ans? Il a 28 ans, Alessandro Silva. Donc, c'est capable de le trouver un milieu offensif, latéral, droit, milieu, whatever. Tu es capable de trouver un attaquant qui a 27-28 ans et que c'est un buteur en série. Débrouille-toi. T'as jusqu'au mois de juillet pour travailler et en trouver un. Hein. Parce que, à un moment.
Puis, pour terminer avec le cas de Torres, je serais extrêmement étonné que Fernando Torres vienne jouer. Son désir MLS corresponde à la ville de Montréal.
C'est vrai, mais ça dépend de ce qu'on lui vend comme projet. Parce que lui, il cherche un peu d'argent et puis juste à jouer. Il va prendre l'équipe qui a la ville la moins dégueulasse, entre guillemets, peut-être. Mais s'il cherche vraiment une ville spécifique, etc. Il dit Columbus c'est sympa, mais fit, non.
Le fit, je dis pas naturel. Là.
Est-ce que t'as l'impression que Drogba c'est un fit naturel, même s'il parle français, honnêtement?
Ben beaucoup plus, là.
Oui, que Torres, mais disons qu'on dit genre Drogba a signé à Chicago, sans même que genre que l'impact et il l'aurait voulu. Tu vas dire, ah ouais, Chicago c'est une grande ville.
Ouais. Moi, si on me propose Chicago, je regarde pas le classement, puis je dis, ah oui, il y a. Il y a Bastien qui est là aussi. OK, fine, je vais là. Puis là, Montréal, si on propose à une vedette comme ça, random, la ville de Montréal, ils regardent le classement. Je suis pas convaincu. Tu sais, on est chanceux d'avoir Garde. Avec ça, on peut peut-être utiliser cette connexion-là. Mais c'est pas naturel. Je vois pas pourquoi Torres va privilégier Montréal devant Seattle, devant Chicago.
Il se peut que lui cherche, si on vend bien le projet, puis la ville.
Mais c'est quoi le projet de Montréal, hein? C'est ça.
Ben, c'est Rémi Garde. C'est
Rémi Garde. C'est à la mode, hein.
C'est Rémi Garde.
Au début de la MLS, c'était la philosophie. Quand on n'a pas su définir la philosophie, on a pris le mot projet. Mais je sais toujours pas c'est quoi le projet. Si on me dit c'est gagné, je dis ben j'espère, parce qu'on a une équipe que son projet c'est pas gagné, c'est un peu plate.
Ça me plate. Non, c'est vrai.
Dr. Foot nous demande notre avis sur Camacho et sur le travail des nouvelles acquisitions en général. On va parler de Camacho en premier. Les autres, ils sont blessés de toute façon.
OK, pour M. Camacho, on est tous d'accord, c'est pas une supercherie. C'est bel et bien un défenseur central.
Ben oui. Ben...
On peut respirer, ben oui. C'est bon. Ouf! On n'a pas été fraudé. Parfait, l'impact n'a pas...
Mais là, ça faisait combien de matchs qu'il n'avait pas joué? Ça devait faire au moins un mois.
Ouais, il aurait pu jouer potentiellement 6 matchs à 8 matchs, dépendant du championnat belge. Ouais, il a raté un. Donc, il n'avait pas nécessairement la forme. Ouais. La forme de physique.
Game shape.
Il était plus day to day, là, tu vois. Donc, c'est ça. Mais, c'est un défenseur central. Il est un peu agressif. Il sait passer le ballon. Il a été surpris par le rythme intense des Red Bulls. C'est pas comme ça à tous les matchs. Hein. Les Red Bulls, c'est vraiment une référence. C'est genre, plus que les Red Bulls, c'est vraiment. Bon, c'est la CCL, tu vois, c'est la Ligue des Champions, CONCACAF. Je trouve qu'il va se débrouiller. Ce que j'ai vu, c'était pas dégueulasse. Les duels aériens, il les prend. Regarde, c'est un défenseur central lambda. Personne ne savait c'était qui avant qu'il vienne ici. Donc on verra ce que ça va donner, mais j'ai pas l'impression que c'est une pêcherie. Je peux pas juger un joueur sur un match. C'est un peu dur.
Non, c'est ça, c'est dur un match, là. Mais bon, en même temps, on a vu que Rémi Garde n'était pas pressé pour l'habiller non plus. C'est un peu inquiétant.
Un peu, oui. Hein? Est-ce que tu as des insights, Milton? Mais
non, aucune.
Comment ça s'appelait?
C'est la réflexion que je l'ai vue une fois qu'il se faisait prendre un peu de vitesse, tout ça, puis il disait, waouh, une chance qu'il arrive de Belgique, parce que sinon, on l'aurait ramassé. Tu sais, j'essaie de retrouver, ah oui, c'est Steph qui nous pose cette question-là. Est-ce que c'est un Boldor numéro 2? C'est drôle, j'avais pensé à Boldor. Tu sais, si ça avait été un joueur de Bologne, hein, il nous prête un joueur de Bologne, puis il s'appelle Rudy Camacho, on aurait dit, non, pas un autre de Bologne.
Heureusement,
c'était pas ça.
Ça sent la fraude fiscale, là. Mais regarde, j'avais pas l'impression quand j'ai vu Camacho jouer, que je me faisais avoir comme on s'est fait avec l'attaquant de l'Uruguay, Santiago González. Lui, on l'a vu rapidement, lui. Genre, ah oui, lui, c'est...
Wow. Non. Lui, c'est le Maxi... Ah oui, c'était ça, hein? Maxi Rodriguez?
Non, lui, c'est le milieu qui a jamais joué. L'autre, là, Santiago González.
Des beaux souvenirs. Ça va faire des quiz incroyables. Ça, puis le fameux quiz, là, où on demandait le latéral gauche jamaïcain, là, que...
Sean Francis.
OK, il te reste encore trois mots pour l'oublier.
Donc, c'est ça. Donc, c'était quoi qui... En plus, ce San Diego González, ils avaient utilisé quoi? Le Special Discovery?
Young Discovery DP?
Oui, le Young Men Discovery. Pas quoi. Là, c'était incroyable. Et voilà. Bon.
C'est grâce à notre capologist.
Oui, exactement. Next question.
Il y a beaucoup de Camacho. Michael T. Mancuso est-il encore dans les plans de Garde?
Il est sur le 18, ça c'est sûr.
C'est incroyable, hein? Il aura joué deux matchs.
Il est dans le 18, il revient de blessure, il va avoir sa chance. Peut-être contre LAFC la semaine prochaine. S'il n'est pas blessé, s'il est en forme, je pense qu'il va l'essayer. Mais j'avoue,
C'est sûr que si on revient dans un 4-3-3, on va revenir avec l'équipe de départ, match 1 et 2, là, avec Mancuso au milieu, probablement Silva à droite. Et on va revenir avec.
Mais ça dépend de sa récupération.
On va revenir avec l'équipe, tu sais, le plan initial de Rémi Garde pendant toute la pré-saison où ils jouent en 4-3-3, puis que là, aujourd'hui, on se retrouve. Moi, c'est ça qui me purge, tu sais. Puis. J'ai l'impression de perdre mon temps, là. J'étais tout excité par la saison. On voit l'équipe pratiquer un certain style, dans un certain schéma. Et là, on est rendu 6 matchs plus tard. C'est la confusion la plus totale. Mais... je sais pas qui joue où, tu sais. Il y a Piatti. Je sais qu'il est bon comme ailier, attaquant, intérieur gauche, mais là, il joue comme attaquant. Vargas a été signé, puis on savait pas trop dans quelle position qu'il pouvait jouer, mais on le sait toujours pas. On sait qu'il est bon pour tirer coup franc.
Mais ils sont bons, les Red Bulls.
Le projet, j'aimerais ça qu'ils soient un peu plus clairs.
Regarde.
Puis Mancuso, il sera plus là cet été. Ils vont s'en débarrasser. Rémi Garde, là, il est pas con. Il sait qu'il y a un problème.
Grosse hypothèse. Monsieur Georges.
Non, mais celle-là... celle-là, elle est pas dangereuse. Il voit que... Il peut faire ce qu'il veut, il peut les entraîner, il peut dire à Robert Duverne de les faire courir 27 fois le terrain pour qu'ils puissent manger de la pizza sans problème. Si les joueurs, une fois avec le ballon dans les pieds, ne savent pas quoi faire d'autre qu'à part le donner à Piatti, il y a un problème. Mancuso, son problème, à lui, son plus gros problème, c'est d'être capable d'aligner des matchs sur le terrain. Il ne peut pas se permettre ça. Quand l'autre, son backup, a le même problème que lui... Lui aussi, il n'est pas capable d'aligner des matchs. Ouais. Puis en plus, là, présentement, on le fait jouer dans une position où il n'est pas outillé pour le faire. On ne peut pas demander à Jackson de tuer une défense à lui tout seul. Lui, c'est un finisher.
Non, même Drogba à 28 ans, tu ne peux pas le mettre en malaise et dire « Vas-y, cours, débrouille-toi pendant 3-4 matchs, on va te basser le ballon, puis bonne chance. » Il va peut-être marquer 12 comme ça. Il va pas te marquer 20, puis ça ne va pas être un rythme super soutenu. Donc, il ne faut pas dire des bêtises. Donc, regarde, par rapport à ton point, si, par exemple, si la tactique, c'était juste donner à Piatti, mets-toi dans des conditions où Piatti est tout en libre. Mets-toi dans des conditions pour aspirer l'adversaire et jouer le contre.
T'es en train de me donner raison. On va revenir au premier sujet. Jouer en 5-3-2 pour pouvoir donner Piatti libre dans les meilleures situations, c'est idiot.
Mais ça marchait contre Toronto.
Parce qu'il se retrouve...
Mais Nathan, ça marchait contre Toronto.
Ça a marché une fois, il a marqué un, tu sais, ils ont réussi à marquer un but contre Toronto, c'était suffisant, ils ont battu une équipe à 10.
Mais Nilton, c'est bon. Mais Nilton, ne va, oublie Seattle, Seattle, ils auraient pu facilement égaliser, mais Toronto aussi, là, mais par rapport à Toronto, la grosse différence, c'est que la bataille du milieu était plus ou moins égale, hein, pendant une partie du match. Contre les Red Bulls, tu gagnais zéro ballon, quand on gagnait en deuxième mi-temps, tu t'en débarrassais pour le perdre parce que on te mettait la pression. En tout cas.
Wow. On va chicaner, hein, longtemps.
Ah, est-ce que c'est, je pense, que c'est un bon moment de prendre une petite pause publicitaire pour annoncer notre gagnant du concours.
Oh, en plein milieu.
Donc, en plein milieu, parce qu'on a dit, on n'avait pas dit quand. Donc, une petite pause publicitaire pour, voilà, pour le gagnant des deux billets pour le prochain match de l'Impact face au LAFC au Sasaputo le 21 avril 2018. C'est tambour. Oh. C'est Doc Mayou.
Doc, oh ben,
Doc Mayou, t'es le gagnant de deux billets. Contacte donc le KNFC.
Vas-y. Donc, on va voir son visage.
Oui. On va t'envoyer des instructions, comment avoir tes billets. Contacte le KNFC via, par exemple, Twitter, envoie un message privé. Si ça ne marche pas, KNFC@afrokanlife.com, AFROKNLife.com. Au pire, on t'envoie un DM, on va te tweeter. Donc voilà, félicitations à Doc Mayou, tu vas écouter ce podcast, tu vas être content. Et puis, je te souhaite.
C'est la preuve qu'on va voir s'il l'écoute vraiment ou il fait juste envoyer des questions.
Je pense qu'il lui envoie des questions puis il l'écoute pas.
Il l'écoute pas. Des fois parce qu'il rit de nos réponses.
Ah oui, surtout, il ira pas de mon côté puis genre, je l'ai l'air bête à chaque fois. C'est incroyable.
Mais t'es bête, donc.
C'est vrai. Bien. Et toi, t'es con. Voilà, je l'ai dit, Nilton. Je te déteste. Ah, je te déteste.
Prochaine question. Génial. Ben oui, ben non. Oh, il est fameux. Ben oui, ben non. Est-ce qu'on aurait été mieux avec Raheem, The Dream, comme option sur le banc que nos trois attaquants?
Non. Je pense que Raheem...
Non, parce qu'il a abandonné le fait de jouer à 4-3-3. Donc, Raheem, dans ce système-là, ça sert à rien.
Non. Mais surtout que Raheem n'est pas dans les plans court terme en ce moment-là. Je pense qu'il s'est brûlé un peu. Malgré son super but contre Columbus, je pense que voilà quoi. Il y a pas un fit automatique en ce moment. Je pense pas qu'ils vont le dégager comme la poubelle. Je pense qu'il va être là pour un bout, du moins pour la saison. À moins qu'il y ait un échange intéressant pour l'Impact. Mais voilà, Ryan et Jim n'a pas de valeur pour l'Impact en ce moment. Dans le 3-5-2, même dans le 4-3-3, il y a avec Silva qui est là. Je pense qu'il y a d'autres options par rapport à ça.
Écoute, il a même choisi Oduro avant lui, là. C'est, voilà. c'est tout dire, là. Et il reste 15 jours, hein, pour l'échanger, lui.
Ah, non, c'est vrai, c'est le mois de mai, donc on stresse. Une petite question pour dire bonjour à un ami de l'émission et sur Twitter, Olivier Paradis Lemieux, de Radio-Canada, ici, Radio-Canada. Est-ce que Rémi Garde...
L'amateur des jeux de mots, là.
Des jeux de mots, jeux de vilains. Est-ce que Rémi Garde devrait faire appel à Bruno Surin pour quelques ateliers sur l'art du sprint? Est-ce que Bruno Surin peut aider l'Impact de Montréal pour le sprint? Bonne question. Je pense qu'il n'y a pas d'espoir, là.
Si c'était juste ça le problème.
Voilà, je pense que Jackson Lamel n'en a pas besoin. Les autres, je pense que les autres attaquants auront peut-être un peu besoin au niveau de l'efficacité et la gestion des efforts. Merci Olivier pour la question. Et prochaine question.
Tiens, c'est lui qui a débuté une grosse chicane entre Borat et Marc. On va en prendre une des trois. Allez, boys, restez amis, là. C'est pas grave.
S'il vous plaît.
On a le droit de. Hein, des fois, après une défaite, on est de mauvaise humeur. Quand on lit un tweet, des fois, on met un ton hein, que l'autre n'a pas nécessairement. Hein,
un group hop, faites un group hop s'il vous plaît.
Ouais. On reste amis. Là.
Des gros câlins, des gros bisous, puis ça va aller.
Non. Une de ces questions était qui est le vrai Cabrera? Les quatre premiers matchs ou les deux derniers?
Les deux. C'est les deux.
Il y avait une parenthèse.
Excuse-moi.
Entre les deux n'est pas une réponse acceptable.
Ah, il m'a eu.
Non, t'as dit les deux. Et effectivement, ça répond quand même à la question, puis la parenthèse, on n'a pas dit entre. Parce que Cabrera, c'est vraiment... Il va être toujours les deux. Il ne sera jamais moyen. Il va être très bon, très mauvais, par la nature de son jeu. C'est, lui, hier, là, samedi, parce que probablement les gens vont l'écouter lundi pendant la semaine, ça n'a pas été le plus mauvais défenseur. C'est celui qui a été le plus exposé par les conséquences. Mais les gestes...
Non, il s'est rattrapé. Moi, je trouve qu'il y avait pire que lui. Parmi les trois centraux, Cabrera c'était le meilleur. Parmi les quatre, Cabrera a été ex-aequo avec Fanny, je trouve.
Non, mais honnêtement. Mais Fanny a fait la même chose là, deux minutes avant.
Ah oui, mais sur le but sur la mauvaise passe de Cabrera. Bon, tout le monde s'est fait prendre à contre-pied. Impossible de rattraper Red Phillips, je pense, qui fait la course.
Oui, c'est lui qui part dans le dos.
C'est du retard. Donc, est-ce que, oui, comme dit Olivier, Surin aurait aidé Fanny à arrêter là pour rattraper, peut-être en mode sprint. Mais à part ça, et Camacho, c'est un peu difficile. Mais pour Cabrera, regarde, Cabrera fait du Cabrera. Je pense qu'il a fait des pires matchs l'an dernier. Il faut juste un peu tempérer un peu. Et je vois sur Twitter qu'on l'insulte, qu'on dit qu'on a marre de lui, plus capable.
Non,
c'est
Cabrera, comme son jeu, tu sais.
Ouais.
il y a deux styles de personnes. Soit qu'il l'aime, soit qu'il le déteste. Il n'y a pas d'entre-deux non plus sur son jeu. Donc, tu sais, oui, on va dire que le public est bipolaire, mais le public n'est pas bipolaire. C'est juste qu'il y a une portion de la population qui parle quand il est bon. Et il y a l'autre portion de la population qui parle quand il est mauvais.
Mais là, il y a une chance d'apprentissage. Quant à Fanny, même s'il est blessé pour un bout, et t'as Diallo, même s'il est blessé, il peut t'apprendre des choses, c'est des vétérans. J'espère qu'il y a une évolution, quoi. Jouer avec ces gars-là, s'entraîner avec ces joueurs-là, apprendre le métier. Tu sais, à un moment, Cabrera n'aura plus la vingtaine, là. Il va être plus proche de 30 que de 25. Donc, j'espère qu'il va évoluer. Puis, moi, ça me dérange pas. Je le vois avec l'Impact pour un autre 5 ans. Ça me dérange pas. Parce que je trouve que c'est une sorte de valeur sûre, qui est pas nécessairement waouh, mais jusqu'à ce que tu trouves mieux, moi, je pense qu'il a sa place.
Mais c'était celui qui était le plus rapide pour aller rechercher les courses dans le dos. Fanny n'était pas capable. Camacho, bizarrement, n'était pas capable.
Ouais.
Je sais que les gens vont dire que Cabrera devrait sauter là, puis être remplacé dans le prochain match. Si c'est le cas, je vais avoir vraiment de la misère à comprendre cette situation-là.
Oui, parce que honnêtement, je trouve pas que ce serait le odd man out là par rapport aux 4 défenseurs centraux. Puis on va pas se plaindre que l'Impact on a genre 50 défenseurs centraux parce qu'il y aura beaucoup de rotation, je pense. Puis t'as Fischer qui arrive, t'as Diallo qui va arriver éventuellement, donc on va voir ce qui va arriver d'ici là.
Riyad nous demande quel changement technique ou de joueur Garde doit apporter lors du prochain match.
Je te rejoins qu'ils vont peut-être faire un 4-3-3 Nilton ou un 4-2-3-1. Pour peut-être maximiser le côté offensif de Silva, mettre dans les trois du 4-2-3-1. Je m'attends qu'à un sorte de 4-3-3 hybride, la 4-2-3-1, pour voir ce que ça donne à la maison, au Stade Saputo. Évidemment, LAFC, tu sais, ça se prend 5 buts, puis ça en marque 4 aussi. Ils ont Rossi, puis Vela. Ensemble, je pense qu'ils ont 9 buts déjà ensemble. Ou peut-être 8 buts.
Non, ça va aller vite, eux autres.
Oui. Et puis la semaine d'après, t'as Atlanta, donc voilà quoi, c'est ça. Dire aussi à 4 buts et Vela on a 4, donc ça fait 8 buts ensemble. Voilà, c'est à toi de choisir ton modèle de jeu. Est-ce que ton modèle de jeu se base sur une formation, est-ce que se base sur l'animation sur le terrain? Je pense que Rémi Garde, même avec Biello, c'est par rapport à des besoins et au modèle de jeu, ce que tu veux faire sur le terrain. Si avoir 5 défenseurs ou 3 milieux de terrain vont t'aider à couper l'axe, ben fais ça. Mais je m'attends à 4-3-3, c'est à la maison, le gazon, le Stade Saputo, ça va être joli. Voilà quoi.
Je suis pas mal convaincu là. Tu sais, ils vont utiliser si Matheus ne se blesse pas encore un peu en entraînement, il va débuter le match pour donner un 60 minutes soit à lui, soit à Jackson, faire une combinaison comme ça. Ils vont prendre Vargas pour le jumeler à Tyder. C'est sûr que là, à la maison, ils vont vouloir essayer d'autres choses. Ils vont vouloir posséder un peu plus le ballon, eux-mêmes contrôler un peu la dynamique du jeu.
Et surtout, Piatti va être sur le côté gauche pour vraiment faire ce qu'il sait faire le mieux.
Oui, puis là, présentement, il va falloir que Garde décide de l'avenir de cette saison. C'est quel système qu'il veut implanter pour faire les playoffs?
Quel type de jeu?
Et ensuite, identifier les besoins, là.
Oui.
Parce que s'il commence à faire du va-et-vient comme ça, ça sert à rien là. Il va falloir que son projet soit clair là pour tout le monde. Est-ce qu'ils veulent adopter un système comme ça ultra défensif et rien donner puis espérer devant ou vouloir un peu plus la construction puis le temporiser eux-mêmes le jeu au lieu de le subir à chaque fois là.
Ça c'est des questions qu'il va devoir poser à travers la saison. Rapidement, si possible. Et aussi, rien n'empêche une équipe d'être une équipe qui aime faire le contre-attaque et une équipe qui aime jouer un peu au ballon. Les Red Bulls ont prouvé que tu peux faire ça.
Francis Casimiro
nous demande si Fanny manque des matchs. On s'entend qu'il va le manquer le prochain. Comment s'arrange-t-on à l'arrière? Jouer avec Cabrera Camacho semble annonciateur d'une catastrophe. Rien de moins. Hein?
Il va falloir l'essayer. Un
moment. Il va falloir la vivre, la catastrophe.
C'est ça. Raetala à gauche, à droite, Duval ou Petrasso, si Petrasso est disponible. Puis voilà, t'as ta ligne de 4. Si je prends une ligne de 4, voilà, à un moment, il faudra laisser Cabrera Camacho. Tu ne vas pas attendre au mois de septembre un match coup près pour faire les séries pour dire, ah, tu sais quoi?
On n'a pas signé un gars 4 ans pour le dire, ouais, finalement, il n'est pas assez bon pour jouer avec un
exactement.
Autre seul défenseur central. Là.
Exactement.
Je veux dire,
tout le monde doit jouer pour qu'il n'y ait pas de surprise en septembre, en août. Ah, ils n'ont jamais joué ensemble, on va les essayer. Surprise.
Non, des fois, on fait ça.
Mais on veut éviter ça, Hilton.
des fois, on fait ça en playoff, on met un gars ou un match clé, on enlève le jeune joueur qui était très bon, mais on met en tout cas.
Je sais pas de quoi tu parles.
Non, bon, non.
Et personne d'autre dans le podcast, et personne n'a compris ta référence.
Bon, prochaine question.
Encore? On a t'as une quarantaine de questions, là. C'est incroyable.
Bart MTL nous demande. Est-ce que la perte de Fanny seule explique l'effondrement de la défensive? Sans un grand stay at home comme lui ou Diallo, sommes-nous perdus sur le plan défensif?
Non, je pense pas. Je pense que les Rebels étaient meilleurs. L'impact n'était pas dans le coup en deuxième mi-temps. Les Rebels se sont réveillés. Ils ont joué à 40% de la capacité la première mi-temps. À la deuxième, ils ont accéléré le jeu. Le pressing, les côtés, l'axe, Wright Phillips, Royer. Tu sais, ils ont vraiment montré tout l'arsenal de leur... tout l'arsenal de leur jeu durant la deuxième mi-temps. Puis voilà, quoi. Ils ont fait du rabot, ils sont chez eux. Ils ont fait le travail. Moi, c'est pas catastrophique que Fanny soit blessé. Là, c'est pas la raison pourquoi l'Impact a perdu le match, là.
Ben, l'Impact jouait très mal avec lui sur le terrain, là.
Oui, mais c'était plus à cause des rabots, là. En partie, les rabots étaient juste meilleurs. Ils sont juste meilleurs, man. Il faut juste, c'est beaucoup plus simple de comprendre le match en disant les rabots sont meilleurs. Point final. Maintenant.
Comment on fait pour être aussi bon qu'eux?
Ben, tu trouves une façon de jouer, tu l'appliques, t'as des principes de jeu. Si tu veux pas que la terre remonte, il monte pas. Fais autre chose à la place, mais juste qu'on le sache, tu vois. Mais Rémi Garde, c'est pas un dead pick là. On sait que c'est un bon coach. Donc on va voir ce qu'il va donner à travers les joueurs qu'il a. Il va ramener du sien à travers le recrutement. Mais ça prend du temps, ça. Tu sais, je t'ai dit, on s'est dit en pré-saison, le recrutement que l'Impact n'a pas fait en janvier, il faut qu'il rattrape le retard en ce moment avec Silva et Camacho, voire essayer de rattraper les 10-20 km en retard par rapport aux autres clubs. Et ensuite, quand tu es au point zéro, rattraper ces clubs en mai-juin pour essayer de grappiller des points.
Ouais, mais moi, ce que j'aurais voulu, là.
Oui.
C'est que les matchs qui étaient. Tu sais, on le savait que le début de saison allait être compliqué, là.
Oui.
Tu sais, les 6 points qu'on a, c'est à peu près ce qu'on pensait pouvoir accumuler, tu sais.
OK, ouais.
Mais moi, ce que j'aurais voulu voir dans cette défaite-là, c'est que ça aurait servi un peu au restant de la saison. Ça aurait servi à bâtir le projet de jeu pour les prochains matchs à domicile. Là, ce que j'ai vu, c'est plutôt un Rémi Garde qui a été pragmatique, qui a joué avec ce qu'il y avait en place, a trouvé que finalement, sa valeur a fonctionné un peu assez à son goût, et il a continué avec ça malgré tout. Et là, on se retrouve avec l'ouverture de la saison à Montréal, au Stade Saputo, et tous les matchs joués auparavant, là, ça sert à rien.
Oui,
Quand on va jouer contre LA, quand on va jouer les prochains matchs contre Philadelphie, New England à la maison, on peut pas se baser sur ce qu'on a fait à l'étranger. Tout le jeu va être différent. Parce que si Silva est là, il va probablement jouer comme ailier droit. Piatti va retourner à droite. On n'aura pas eu d'attaquant pour combiner. Le jeu au milieu, ça sera plus pareil. C'est ça qui me dérange. J'ai encore l'impression de perdre du temps. Je regarde les matchs, puis je me dis, waouh.
Je te comprends, Nilton.
On s'est débarrassé des 90 minutes à l'étranger, tu sais.
Ouais, j'ai l'impression que, ouais, je vois que cette frustration de voir un éternel recommencement, on met le bouton reset à chaque fois. C'est comme le jour de la marmotte, ça revient, on répète. Le jour se répète à chaque fois, mais on change. On sait plus ce qui arrive. Et puis, c'est un très bon point. Est-ce que les leçons des matchs à l'extérieur peuvent être appliquées à la maison, on ne sait pas parce qu'on n'est pas encore sûr du modèle de jeu spécifique. Et je pense que je donne encore du loss à l'Impact. Je veux voir tous les joueurs qui font partie de leur top 14 pouvoir vraiment jouer ensemble pendant 3-4 matchs, pas plus.
Mais ça arrivera donc, presque jamais. Jamais arrivé avec l'Impact de Montréal.
Oui, non, c'est vrai, mais j'espère leur donner une dernière chance. Mais à part ça, on va pas faire plus que ça.
Tu sais, regarde, là, on a Petrasso, il est jeune, et après deux matchs, il est tombé. T'sais, on l'a ouais. tout le temps. Heureusement, Piatti, c'est quelqu'un qui dure. T'sais, il y a eu quelques problèmes physiques, là, mais
ouais.
pas trop. T'sais, mais t'sais, on peut pas tout le temps se dire, ouais, ça fonctionne pas parce que finalement, ben, à droite, il y a eu 3 gars différents. En défense centrale, il y en a eu 5. On s'en fout.
Ce qui est important, c'est
que... parce que les autres équipes, c'est pareil.
Exactement.
Les autres aussi, il y a une rotation, que ça soit pour des besoins physiques ou que ça soit parce qu'il y a des blessures. Des rotations comme ça, il y en a partout. Mais quand tu vois le Red Bull jouer, tu comprends clairement c'est quoi qu'ils veulent appliquer sur le terrain.
Et ils le font systématiquement. Ils répètent le même jeu à chaque fois. On le voit arriver, mais tu peux pas l'arrêter parce que ça marche bien.
Et quand les joueurs ne font plus... quand ces joueurs ne sont plus capables de faire ce travail-là ou qu'ils n'aiment pas la façon qu'ils l'exécutent, ben il prend ce Kleidstein puis il l'envoie ailleurs, il prend Philippe puis il change. Et il a pas peur. Il va chercher pas des gros noms, mais il va chercher des éléments
qui vont marcher dans son échiquier. Je suis d'accord.
Exact.
Je suis d'accord.
Là, c'était quoi le j'ai regardé Silva 2 matchs. Je l'ai vu jouer dans 2 positions différentes. Je ne sais pas pourquoi il est allé on est allé dire que Silva allait être le penchant un peu de Piatti à droite, mais on ne l'a pas vu jouer encore là. C'est pourquoi qu'on est allé le chercher?
Et on sait que Piatti a dit que c'est un numéro, c'est comme Tider à droite un peu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Tider à droite? Et ce qui m'avait stressé un peu, c'est quand Gremiga l'avait dit en conférence de presse, quand il était signé, quand il était présenté dans le Scrum, il y a quelques semaines, qu'il peut, sa flexibilité de jouer à droite, comme latéral droit, est intéressante. Ça m'a un peu fait suer, je dis, OK, j'espère qu'il est là pour apporter de l'attaque, hein, apporter de...
Ben oui, c'est pas ça qu'on a besoin.
Là. Oui, tu peux être apporter de l'attaque comme latéral droit, mais je pense qu'on a deux, et l'Impact peut se permettre de mettre Silva un peu plus haut sur le terrain. Mais ça, je suis pas coach, c'est Gremiga qui est le coach. On verra, mais je suis d'accord, la frustration de l'éternel recommencement. Parce que oui, les Red Bulls, ils ont Edwards à droite avec Silva, puis avec, et Petrasso, si tu veux. Les trois, ils vont savoir comment les intégrer dans leur système parce que ils ont une recette. Si tu ne fites pas dans la recette, tu ne restes pas dans l'équipe. C'est aussi simple que ça. Alors que l'Impact fait l'inverse, on dirait qu'ils adaptent leur recrutement par rapport à ce qu'ils veulent faire. Quoique Tider, c'est un recrutement pour dire, lui, on veut jouer d'une seule façon, on a besoin d'un joueur comme lui. Donc, on voit que Tider, c'est un recrutement pour ramener un certain style de jeu. Maintenant, les autres, il faut qu'ils jouent un peu plus longtemps. Bon. Voilà.
Sinon, est-ce qu'on termine avec les notes des évaluations?
Oui, on y va. Parfait.
Bon. Ben, je peux te commencer tout ça en disant, selon toi, qui a été le sapitoteur du match?
Pour moi, c'était Evan Bush.
Ouais, mais c'était le deuxième avec 38% des votes. Sinon, Jason Vargas et son coup franc est allé chercher 47. Les deux autres joueurs qui ont pu aller chercher un peu. Ton Samuel Piette a eu un saputo d'or à 7% et Piatti à 5%.
Si on géolocalise Samuel Piette, c'est vraiment Repentini qui a voté pour Samuel Piette.
C'est surindexé Repent, c'est ça. le trou de Poutine avec. 66 votes, Victor Cabrera, c'est sûr que ça passe, hein, ça restait dans la tête. Suit ensuite Camacho, Raitala, Silva, bref. Ça y va par là.
Kroliki échappe un peu, là.
Ouais, un peu, parce que c'était le prochain. sur la liste, la note du match, une moyenne de 4,1.
C'est super. Ouais,
c'est super. Hein. Est-ce que tu te souviens la semaine passée, est-ce que c'était dans le 3?
Ouais, c'était du 3. C'était assez mauvais.
Bon. L'arbitrage, une moyenne de 6,8, franchement. Ouais. Pourquoi pas donner un 10? Là? Je veux dire, il s'est rien passé de négatif dans ce match-là. Les gens sont
il aurait dû appeler pénalty pour Lovitz. Ça, c'était pour moi, ça m'a donné un mauvais goût. Parce que c'était pénalty. Moi, c'était un Murillo a vraiment poussé dans le dos et c'était pas épaule à épaule. Pourquoi le VAR n'a pas été activé, je ne sais pas. Ça, je trouve ça un peu dommage.
Attends un point, mais bon.
Ça j'ai toujours un point, Hamilton. Toujours.
OK, toujours un point. La performance collective de l'Impact de Montréal, un gros 3,5.
C'est assez généreux.
Imagine si ça avait... Imagine un jeu avec une note de 2, ça serait quoi? Wow!
Wow!
3,5. Et le coach Rémi Garde, ouais, ça commence à descendre pour notre petit Rémi. 4,7 pour la note de Rémi Garde. C'est pas quelqu'un qui tente beaucoup de choses dans un match. Hein, c'est,
Non, bah, contre Vancouver, c'est, il avait tenté quelque chose de bien. Il avait enlevé un défenseur, je pense, pour mettre... un peu plus qu'il avait fait contre Vancouver le premier match. Il avait enlevé Raitala pour jouer à 3. Donc, tu sais, on voyait quelque chose de... pas de innovateur, mais vous l'avez mis derrière la tête là. Puis, tu sais, il était pas obligé de faire tous les changements dont il avait besoin, dont il avait accès, mais voilà. En tout cas, on verra la tendance là, peut-être après au tiers de la saison. Cette fin de fin de compilation des moyennes, là, puis ça va être intéressant.
Donc c'est ça. Sinon pour les notes du match, mais dans les 6, il y a Jason Vargas et Bush qui méritaient une note de 6,6. Quelques 5, Nacho Piatti, Piet et Fanny. Hein, Fanny, on... des fois, le temps, hein, ça nous permet d'oublier des, ce qui fait de mal. Mm-hmm. Sinon, tout le reste mérite du 4, sauf Victor Cabrera qui est à 3,5, le pauvre.
Au fond, voilà. Ce que les gens ont évalué, puis je le comprends, ils ont évalué le coup franc de Vargas et la passe de Cabrera. C'est au fond.
Mais ça résume pas mal le match.
Et c'est pas de leur faute. Moi, je le comprends parce que j'avais les mêmes réactions, genre, ah, Cabrera, c'est nul ce que t'as fait. Mais oui, ça, les 129 répondants, au moment où on se parle en ce moment, là, il est 18h dimanche, au moment où on se parle, voilà, c'est 129 qui répondent à ce qui ont répondu à ce sondage jusqu'à maintenant. Bon, bah, sur ce, je pense que c'était une belle émission, Milton. On a fait 1h10.
Ben, moi. Là, ça serait bien une petite victoire parce que là.
Mais non.
On n'est pas loin du hashtag.
Non, c'est trop tôt.
On n'est pas encore rendu. Ben, Miss en vient.
En mai.
Oublie pas, en mai.
En mai, fais ce qui te plaît.
Au mois de mai, je m'énerve, là.
Au mois de mai.
Là, le bon hashtag, c'est no fun, mais.
Il y a dans
donne-moi deux autres matchs à domicile, là, puis.
Il y a un peu plus d'un an, on a secoué la planète foot. T'imagines? Toi, tu m'as d'abord secoué. Toi, tu m'as d'abord secoué. Ouais. Je dis, ouais, je pense
que. Quand ça a l'habitude.
Je vais le suivre, le garçon, parce que je trouve qu'il a raison. Puis après, on était négatifs, puis on était des nuls, puis c'est pas grave. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté sur les différentes plateformes de balado diffusion, iTunes, Spreaker, SoundCloud, Cannes Football Club sur SoundCloud et Cannes Football Club Plus sur les autres plateformes. Donc, évidemment, sur Facebook, Twitter, Instagram, Cannes Football Club, faites une recherche avec ce mot-clé. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, dans les notes d'émission, on va mettre tous les liens dont vous avez besoin. Et Nilton, je te remercie encore pour ce beau samedi après-midi, ce beau dimanche après-midi avec toi.
Ouais.
Toujours un plaisir. J'ai menti, parce que vraiment, tu m'emmerdes. Mais merci encore, Nilton. Et félicitations à Doc Mayou. On a hâte de voir ta photo en selfie au Stade Saputo.
On veut un selfie.
C'est ça. Tu peux même mettre un masque de Doc Mayou dessus. Là, c'est pas grave. Tant qu'on sait que t'es là physiquement. Donc, merci encore. Et puis, tout le monde, et bonne écoute, bonne semaine. Puis, on se parle sur Twitter et Facebook. Ciao, ciao.
Ciao, tout le monde.
Ciao, tout le monde.
MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.